Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Et moi, je pense qu'il y a un truc aussi de toute puissance, c'est-à-dire de ne pas vouloir ressentir des trucs qui appartiennent à la condition humaine. L'ennui, la peur de la mort, l'isolement ontologique, c'est-à-dire le fait que je ne puisse pas fusionner avec d'autres. Tu vois, plein de toutes mes limites, je ne veux pas les ressentir, quoi. Vraiment, le pire truc, c'est de se prendre pour Dieu. Et je pense que chez les addicts, il y a un truc comme ça de toute puissance face à l'angoisse existentielle, quoi, un truc vraiment de peur.
Il s'auto-qualifie de mec de l'underground dans un blog qu'il commence dès 2015, s'auto-proclame précurseur de la littérature vandale, s'auto-édite, beaucoup d'autonomie pour cet électron libre et donc pas si surprenant que sa prison, il se la soit construite lui-même. Pendant près de 20 ans, j'ai consommé des drogues et de l'alcool en grande quantité de façon quotidienne. Je me défonçais pour passer le temps, pour m'amuser, pour travailler ou encore pour trouver le sommeil, n'importe quel prétexte en valait un autre. Confie-t-il au journal Le Monde. Johan est un de ceux qui ne fait pas les choses à moitié. En fait, coke, drogue de synthèse, cannabis, alcool, tabac, les produits lui faisaient croire, comme à beaucoup d'entre nous, qu'il ne pouvait plus faire sans. Il a écrit ses premiers romans dans la conso, comme on dit, et a même obtenu le prix de Flore avec l'un d'entre eux, Panam Underground, aux éditions de la Goutte d'Or en 2017. Des récits bruts et incandescents sur le Paris by Night qui ne baille jamais. Des récits qui paraissent indissociables de son auteur et pourtant, depuis presque 4 ans, Johan Zarka a quitté le monde de la nuit, de la défonce pour se consacrer à son rétablissement, à sa fille, à l'amour, à la philosophie et continue de nous faire frissonner dans un argot parfait avec des livres comme Kems sur le sujet brûlant du chemsex ou encore son dernier opus Drag, dans lequel il nous plonge encore une fois dans des univers sombres et méconnus. Ses sujets de prédilection sont toujours la violence, l'anesthésie, la peur, les masques que l'on porte pour survivre. Johan Zarka écrit avec autant de frénésie qu'il avait à se défoncer, mais comment devient-on écrivain abstinent quand on a pris l'habitude de tremper ses mots dans l'acide ? Où trouve-t-on son inspiration, sa motivation, sa folie ? Toujours en prise avec des questions existentielles, Johan s'en remet désormais à la philosophie et à l'amitié d'autres dépendants pour y répondre. Merci de nous partager un peu de ton courage, de tes masques et de ta plume.
Bah merci et puis merci pour la présentation et je trouve ça très bien écrit.
Ah, voilà. Tu vois, quand un auteur de renom aime comment j'écris. Bon, j'avoue que je m'applique beaucoup plus, par exemple, pour toi et pour Frédéric Becbédé que pour certains, je suis désolée, il y en a qui n'ont pas eu autant de recherches.
Eh bien, ça me fait plaisir, merci.
D'ailleurs, le titre de ce podcast, j'aimerais l'appeler « Les masques et la plume, devenir écrivain abstinent ».
Ouais, très bien, voilà. Ça me convient.
Parce que je pense que que se défoncer souvent, c'est pour justement mettre un voile entre soi et la réalité, soi et les autres.
Ouais, je partage assez. Enfin, c'est aussi effectivement une des. Ouais, je pense que c'est une des raisons aussi.
Une des
c'est
raisons.
De se protéger, ouais.
Et ben alors, justement, qu'est-ce que c'est pour toi l'addiction comme ça, depuis tout
alors, spontanément, je dirais, je reviendrai quasiment à la définition presque un peu scientifique ou thérapeutique. C'est vraiment de l'obsession, c'est-à-dire vraiment un truc qui fait que je vais penser tout le temps à un objet extérieur. Alors, ça peut être la drogue, ça peut être la bouffe, le sexe, n'importe quoi. Et puis, qui entraîne une compulsion, c'est-à-dire pour me débarrasser de cette obsession, je suis obligé d'aller consommer quoi que ce soit. Voilà ce que, pour moi, est une addiction.
Est-ce qu'on peut avoir une obsession, par exemple, justement, de la drogue ou l'alcool ? Et aller compulser dans autre chose, justement parce qu'on ne veut plus se droguer ou boire. Est-ce que ça marche aussi comme ça ?
Bah, le truc des vases communicants, c'est un grand classique. C'est-à-dire, une fois que tu arrêtes un truc, de passer à autre chose. Mais je pense que quand tu as l'obsession de quelque chose particulier, comme la drogue, a priori pour que ça soulage, il faut y aller, mais ça ne va pas soulager très longtemps.
Quelle enfance tu as eue ?
Enfance, moi j'ai grandi dans le Val-de-Marne, dans une famille aisée, j'ai un père médecin, et en même temps dans une ville où il y avait un grand brassage social, ce qui est assez rare en fait. Moi je vivais à Brie-sur-Marne, dans les Hauts-de-Brie, donc j'étais dans le bahut un peu populaire de Brie-sur-Marne, et en même temps c'est vrai qu'autour de moi il y avait des gens vraiment de toutes les catégories sociales, et je trouve ça... Et je le note parce que c'est quelque chose que je trouve assez rare.
Et voilà. Riche aussi pour toi.
Ouais, il y avait tout. Il y avait vraiment. Et riche, ouais. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai gardé mes potes d'enfance beaucoup. Et c'est vrai que je vois que c'est vraiment des gens qui viennent de tous horizons, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'est par le fait que je viens de cette ville-là, quoi. C'est très propre, c'est très géographique. C'est ça, cette géographie-là qui a permis ça, quoi.
D'accord. Et il n'y a pas de page dans. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu le dernier pour l'instant et je pense que je vais me mettre aux autres. Dommage qu'on n'ait pas lu Kems quand on a fait cet épisode-là. On va parler du coup un peu de ça. Il n'y a pas de page qui ne se passe sans qu'il y ait vraiment une référence au pétard, surtout. Genre, le pilon, tu l'appelles ?
Ouais, le pilon. Ouais. Mais après, je pense que déjà, tous mes romans... sont gavés, à quelques exceptions près, sont gavés de drogue en tout genre, quoi. Pétard, ouais, parce que forcément, moi, j'ai commencé par là, et que mes premiers romans ont été écrits, j'étais pas encore dans les autres consommations, parce que j'ai commencé à écrire tôt.
Ça.
Et après, au fil de mes romans, tu vois que les produits, ils varient, quoi.
On voit que t'en connais de plus en plus, en fait.
Bah, j'en connais un rayon, parce qu'en plus, c'est des trucs, on parle souvent de drogue de choix. Moi, c'est un truc que je connais pas trop, parce que c'est vrai que j'avais une consommation multiple, et j'étais vraiment polyaddict, et surtout qui correspond, j'avais une drogue pour bosser, j'avais une drogue pour dormir, j'avais une drogue pour m'amuser, j'avais une drogue pour mater un film. Alors là, c'était beaucoup les joints, ou même pour me donner faim, tu vois, je fumais pour me donner faim, j'avais besoin de high, donc j'avais, en fait, je connaissais, tout n'était pas festif, c'est-à-dire j'avais une consommation pour chaque manière de vivre. Bah,
j'aimerais bien savoir un petit peu justement, d'abord ça commence, tu me dis ado, tu fumes, c'est ça?
Ah ouais, j'ai commencé très tôt. Ouais,
et t'as commencé à écrire et fumer en même temps, ou qu'est-ce qui est
l'écriture, c'est l'écriture, parce que ça j'écris depuis que je suis tout petit. Moi j'aimais bien raconter des histoires, donc même tu vois, je parlais de mes livres, mais j'avais dès que j'ai su écrire, donc ça c'est un truc qui me tient.
Tu disais j'écris un livre?
Ouais, je disais j'écris un livre alors que ça faisait qu'une page, mais oui je disais ça. Donc ça c'est très ancien, et après la conso c'est venu à peu près comme tous les consommateurs assez jeunes, tu vois, 13-14 ans, où tu commences les joints, les trucs, et puis après
la clope d'abord.
Ouais, la clope d'abord,
je fais le truc. Premier la clope ou pas ?
Oui, mais alors la clope, moi je le considère pas comme, pas, je suis plus fumeur, mais je considère pas ça comme vraiment une drogue comme.
Non, mais souvent on dit tout le monde a commencé par la clope. C'est rare quand même les gens qui se défoncent et qui fument pas.
C'est vrai, c'est rare. C'est rare. Alors c'est marrant parce que tu parlais le cas du chemsex. Il y a pas mal de chemsexeurs qui commencent tard, qui n'ont rien touché aux parents, et puis d'un coup qui arrivent dans une consommation hyper violente à 30-40 ans. C'est pas un truc si rare. Mais c'est vrai que dans le classique, on transgresse petit à petit. Donc la clope, oui, j'avais pas intérêt à me faire cramer en train de fumer une clope. Et évidemment, je le fais, tu vois, il y a les premières transgressions, oui, en même temps que les vols, en même temps que des bagarres, des trucs, où, et puis voilà, la clope, après le cannabis, après...
Le cannabis, ça a été une histoire d'amour quand même, un petit peu, avec ça.
Ouais, ouais, enfin, en tout cas, ça a été un mode de vie, ouais, c'est vrai qu'une fois que j'ai goûté à ce truc-là, j'aimais beaucoup, et puis j'ai continué, mais jusqu'à la fin de ma consommation, j'étais quand même un gros fumeur, ouais.
Alors, l'évolution, elle s'est faite après le cannabis. T'as essayé quoi en premier?
Alors, après le cannabis, il y a eu tout ce qui était les extas, la MD, et puis surtout la coke. Et alors, c'est assez... comment dire, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai connu ça dès que j'ai quitté ma banlieue. C'est-à-dire, nous, c'était vraiment très bédo. Et puis, tu vois, vraiment le truc un peu social d'un coup, je suis arrivé dans un milieu plus riche où j'étais avec beaucoup d'artistes de Paris ou des journalistes ou des milieux un peu de la prod. Et puis, d'un coup, ta conso, elle change parce que les produits sont plus chers. Surtout à mon époque. Alors, je ne suis pas vieux. Hein, mais,
non, 84.
Mais... c'est maintenant, la coke, ça s'est démocratisé. Mais encore, moi, quand j'avais 18-19 ans, ça restait un truc de riche.
Aujourd'hui, c'est presque un truc de pauvre.
Ouais, c'est un truc. Enfin, en tout cas, c'est démocratisé. Et moi, alors, je te disais, je viens d'une famille plutôt aisée. Mais moi, perso, j'avais pas vraiment beaucoup de thunes et tout. Donc, j'étais beaucoup, tu vois, avec des potes, j'étais beaucoup dehors, moi.
Mais comment tu me dis que t'es arrivé dans un monde plus alors, aisé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est pas que moi j'étais plus aisé, c'est que je me suis retrouvé avec des gens. Tu vois,
habiter Paris?
Je suis venu habiter à Paris. Mm. Et en même temps, l'année où j'arrive à Paris, je publie mon premier roman dans une grande maison d'édition. Et du coup, tout de suite, je me suis retrouvé aspiré dans des mondanités que je connaissais pas tellement avant.
Roman qui s'appelle?
Qui s'appelle Le Boss de Boulogne.
Voilà. Et ça, c'était ton. Là, t'avais déjà ton blog?
J'avais déjà mon blog, exactement, ouais.
Ce blog-là, il a eu du succès.
Ouais, il a eu du. Bah, en fait, c'est ce blog-là qui m'a fait connaître. Enfin, voilà. qui a fait qu'une éditrice a repéré ce blog, puisque un jour, ils en parlent dans les Inrocks, un truc, et je reçois un coup de fil d'une éditrice parisienne et qui me dit, ouais, j'aime bien votre style d'écriture. Il y a beaucoup de verlan, d'argot et.
C'est ta façon de parler, on est d'accord, t'as rien à... Enfin, je veux dire, tu t'es pas pris un rôle
Non, alors c'est vrai que c'est ma façon... Alors je dirais que heureusement que je parle pas comme j'ai créé le blog, parce que vraiment c'était gratiné total, mais c'est vrai que c'est quand même une manière de rythmer ses phrases, et c'est vrai que j'utilisais beaucoup d'argot, mais là il y avait quand même un exercice littéraire, je peux pas non plus écrire exactement comme je parle, il y a quand même un juste milieu... Et du coup, voilà, cette éditrice qui me contacte, elle me dit, est-ce que vous auriez un manuscrit? Enfin, j'aimerais bien bosser avec vous. Et moi, j'avais un manuscrit de côté que j'avais écrit et j'ai ressorti. Et c'est comme ça que j'ai été édité. Bah ouais, c'était cool parce qu'en plus, c'était assez rare de passer par les blogs littéraires. Donc, ça s'est fait comme ça. Et tout de suite, je me suis retrouvé avec des connaissances journalistiques, un truc comme ça qui me dépassait un petit peu. Et tu parlais de masques. Et c'est intéressant parce que moi je me suis retrouvé un peu dans un truc comme ça, de me retrouver dans un, voilà, je suis passé de on se donne rendez-vous sur les bords de Marne dans les parcs. Moi c'était beaucoup ça, hein, ma vie à Brie, c'était beaucoup des trucs. Il y a pas grand chose à Brie sur Marne, il y a un petit bar, tu vois. Et donc je passais d'un monde où je traînais beaucoup à un monde un peu avec des mondanités, des trucs. Et puis c'est là où je me suis mis à goûter à la coke, à tous ces trucs là quoi.
Et en fait, d'après toi, pourquoi est-ce que t'as... Qu'est-ce qui te donnait envie de te défoncer? Parce qu'on peut avoir envie d'essayer les choses. Il y a des gens qui ont une curiosité, pourquoi pas. Mais est-ce que tu as aimé la défonce tout de suite? Et qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que ça s'est venu apaiser? Qu'est-ce que c'est venu anesthésier? Je sais pas.
Ça, faudra en parler à un thérapeute. Tu vois, non, mais ça, c'est toujours. En fait, bon, c'est toujours un peu complexe, là, le mécanisme de qu'est-ce qui fait que quelqu'un va. Parce que moi, autour de moi, j'ai des gens qui peuvent se défoncer bien comme il faut, mais c'est pas leur mode de vie. Et puis, des fois, non. Et ça, moi, c'était tout de suite beaucoup. Et ça, moi, qu'est-ce qui fait, c'est des parcours individuels. Hein. C'est trucs classiques, mais ça, c'est un truc qu'on connaît. Je veux dire, on ne devient pas dépendant. J'aime bien dire dépendant plus que toxicomane ou alcoolique. Ouais. On ne devient pas dépendant sans être passé par des traumas, sans être... Voilà, moi, il y avait tout un truc... Sans être passé par des souffrances à l'enfance, quoi. Oui. Moi, j'ai eu un accident domestique. C'est un peu compliqué pour moi d'en parler là, mais en tout cas, je suis effectivement passé par un trauma à la jeune enfance, comme quasiment toutes les personnes qui se retrouvent dépendantes aux drogues, et aussi avec un climat, je pense, de toute façon. je pense que c'est multifactoriel qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi, chez moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas une culture tellement de l'émotion. On n'exprimait pas tellement des émotions. C'est un truc familial, mais sociétal.
Ça, je connais
beaucoup
bien.
Plus, bien sûr.
Le silence, d'ailleurs, on avait reçu Melchior Capitolin qui a écrit un livre qui s'appelle « Brise le silence ». Et le silence, les secrets, les mensonges, les endroits où on n'exprime pas justement ses émotions. Alors que l'émotion, j'ai appris récemment un truc très fort, que c'est le ciment de tout. C'est-à-dire les hypnothérapeutes utilisent l'émotion pour faire rentrer des choses, par exemple. Ils te mettent dans une émotion et après, ils te font passer un message. Et l'émotion, on l'a vu dans le dessin animé Vice Versa, qui est extraordinaire. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux retenir des choses que s'il y a une émotion liée. Et dans les familles où l'émotion, elle est taboue un peu, En fait, moi, par exemple, j'ai pas de souvenirs énormément parce que je trouve qu'il y avait pas l'émotion. Quoi. L'émotion, c'est important.
Ouais. Et au-delà des familles, je trouve que c'est quand même très sociétal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je trouve pas qu'on favorise tellement les émotions.
Oui.
Et tu me demandais, alors je rebondis parce que tu me disais, mais qu'est-ce qui a fait que t'as consommé ? Moi, il y a un truc. Bon, déjà, c'est vrai que quand je suis devenu abstinent, j'étais très paumé émotionnellement. Je pense que c'est encore un peu le cas, parce que je suis abstinent depuis un peu plus de 4 ans.
Bravo.
Mais, merci. Mais je pense qu'il y a des trucs, j'arrivais pas à identifier ce que je ressentais dans certaines situations, maintenant un peu plus. Une des raisons, moi, je pense que l'émotion que j'ai le plus fui et j'observe que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, c'est l'ennui. L'ennui dit plein de choses. C'est-à-dire, tu sais, on dit beaucoup, j'ai consommé pour de la peur. Oui, pour des peurs sociales et tout, certes. Mais alors, l'ennui, ça tape tellement sur un truc existentiel fort, sur le vide, sur la mort, sur
J'allais
le sens.
J'allais te dire, l'ennui, lui aussi, cache quelque chose. Je veux dire, quand on est en colère, c'est parce que souvent on est triste. Moi, l'ennui,
exactement, c'est
la même chose que toi. Mais je n'arrive pas à identifier forcément ce qu'il y a derrière. Bah, c'est souvent de se retrouver face à soi-même, déjà, et face au vide, donc la mort. Toi, c'est la mort, hein ?
La mort. Oui, moi, voilà, exactement. Moi, je trouve que derrière l'ennui, il y a beaucoup l'angoisse.
Ouais.
C'est-à-dire
le vide.
Mais l'angoisse, c'est ça. C'est-à-dire, là, je reprends Kierkegaard, parce que tu parlais de philo dans le truc. Et c'est la peur sans objet. C'est-à-dire, c'est de l'angoisse existentielle, le sens que je veux donner à ma vie et tout. Et une fois que je deviens abstinent et que je fais un travail sur moi, dans les groupes, je me retrouve face à... Alors, qu'est-ce que je veux ? Quel sens je veux donner à ma vie ? La mort, tous des trucs très existentiels, en fait.
Le fameux arbre qui cache la forêt.
Ouais, c'est ça, l'arbre qui cache la forêt.
Il y a une petite forêt derrière, on se transforme en bûcheron soudainement.
Oui, c'est ça. Ouais.
Après la conso. Ah bah oui, il va falloir abattre un peu, mais parfois, il va falloir prendre soin de quelques arbres aussi. Il y a une forêt, mais c'est pas que néfaste, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Et puis, je pense que la peur dont tu parles, l'être humain y est confronté, mais pas tout le monde n'ose s'y confronter. Il y a des êtres qui sont plus sujets à ça, mais je pense que c'est quelque chose, c'est l'inconscient collectif. Enfin, on est tous là à se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Et puis surtout, quand est-ce que je vais ? On sait tous qu'on va mourir et ça nous angoisse. C'est le truc dont on est le plus sûr, c'est qu'on va crever quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et évidemment, alors on peut faire mettre du... C'est marrant de parler de ça, mais c'est vrai qu'on peut mettre du déni sur la mort, ça c'est ce que à peu près tout le monde fait, ou bien on peut aller vraiment voir le truc en face.
Frontal.
Frontal, et du coup ça va pas être facile, mais tu peux mettre du sens du coup, il y a un moment, voilà, si tu... moi j'ai décidé de pas mettre du déni sur cette émotion, j'ai décidé de ressentir ce truc-là, donc ça effectivement ça peut m'amener à des états d'anxiété ou de tristesse, mais néanmoins je peux en faire quelque chose, et c'est vrai que j'ai pas l'impression de perdre mon temps depuis que je suis abstinent. C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire des trucs, que des trucs qui ont du sens, quoi. D'être en lien avec des gens que j'aime, d'être artistiquement, de me concentrer sur mon art plus que sur le succès ou sur la thune ou des trucs comme ça. J'aime bien être... je suis impliqué dans l'entraide entre les personnes dépendantes. Voilà, il y a des trucs...
T'investis ta vie.
Ouais, et je pense que c'est lié un peu à ce truc-là. Parce que je pourrais anesthésier mes angoisses existentielles dans n'importe quoi. Alors, dans la drogue éventuellement, mais je pourrais me caler devant la télé. Tu vois, et c'est vrai que j'ai décidé d'aller voir ces trucs-là, d'aller m'ennuyer, nos trucs. Et du coup, ça me permet, je pense, de donner un peu du sens à tout ce que je fais. Quoi. C'est important pour moi.
Avant d'arriver à justement ce rétablissement qui est quand même en route depuis 4 ans, j'aimerais bien...
4 ans et 3 mois.
Et 3 mois, bien sûr, évidemment. J'aimerais bien quand même analyser le côté art, écriture, inspiration et conso quand même, parce que en plus ça m'intéresse grandement. quels étaient tes rituels d'écriture sous conso ? Est-ce que vraiment tu avais cette impression que ça pouvait pas être autrement et que ça t'aidait et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ?
Alors, mes rituels, est-ce que j'étais si ritualisé que ça ? Je pense pas que j'étais si ritualisé que ça, mais parce que. Alors, sauf que je me défonçais en écrivant. Donc, c'est ça, tu peux me dire, c'est un rituel. Mais je pense que ça me permettait justement de. De pas faire face à l'angoisse. Moi, par exemple, tu sais, j'entendais beaucoup parler de l'angoisse de la page blanche. Mmh. Tu vois, l'angoisse
tu
de l'artiste.
Je voulais même pas l'avoir.
Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me foutais de la gueule des gens qui disaient ça. Je disais, mais putain, c'est un cliché, c'est tellement un lieu commun et tout ça. Sauf que moi, quand je suis devenu abstinent, je me suis retrouvé avec cette angoisse. Avec les doutes, avec les. Attends, est-ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que. Tu vois, avec des trucs. Donc, je consommais peut-être pour pas ressentir aussi ce truc-là. Donc, j'étais pas tellement ritualisé. Par contre, je fumais beaucoup, mais comme on a besoin de boire un thé ou un café en même temps qu'on bosse. Ou, voilà, donc c'était à peu près mon seul rituel. Et je pense que c'était justement, je me défonçais aussi pour pas avoir besoin de tant de rituels. Parce que les rituels, ça rassure vachement.
Ah ouais.
Et donc, ça m'a permis de peut-être pas ressentir de la peur liée à mon activité.
Quand aujourd'hui, tu dis pas de page blanche, ça veut dire qu'en fait, immédiatement, dès que tu. Oh. Alors moi, je suis comme toi, c'est parce que je me mets devant l'ordinateur que quand j'ai envie d'écrire et que j'ai un truc à dire.
Mais
moi,
je me mets pas ça.
Voilà, moi, je me mets pas devant en attendant l'inspiration. Il y avait, quand il s'appelle King, c'est quoi son prénom, lui ?
Stephen King.
Oui, d'un coup. Stephen King qui disait, si vous attendez l'inspiration, c'est mort, les gars. Ah, oui. Mettez-vous tous les jours de 8h à midi à votre bureau et si elle vous cherche l'inspiration, elle sait où vous trouvez. Et ça, c'est vrai.
C'est très bien dit, mais moi, j'écris tous les jours. Tous les jours. Mais en fait, pourquoi je l'écris ? C'est pour pas ressentir la peur. Parce que je vois...
L'ennui alors... ou la peur ? La peur de l'ennui ?
Alors, non, la peur. Pour l'écriture. Hein.
Ok.
J'écris tous les jours pour pas ressentir la peur de l'angoisse, de cette fameuse angoisse de la page blanche. Et tu vois, en fait, cette émission, je l'ai annulée la semaine dernière parce que j'étais malade. Et en fait, il m'a fallu 2-3 jours où j'ai pas pu écrire parce que j'étais vraiment malade pour vraiment tout de suite, il y a le truc qui se remet en place et putain, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que... Quand j'écris tous les jours, je vois que je suis maître à bord, que l'inspiration, enfin, est-ce que voilà, je peux écrire, que je peux... Voilà.
T'as pas besoin d'inspiration, en fait. C'est du travail. T'aimes écrire,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est du taf, ouais. Je pense que l'inspiration, ça... J'ai pas trop d'avis sur le truc. Alors, il y en a qui vont dire, là, j'ai besoin... Il y a deux trucs un peu extrêmes. Il me faut de l'inspiration, j'attends que l'inspiration vienne.
Ça, c'est un peu
le truc romantique. Je pense que c'est un peu faux et je pense que l'inverse, c'est faux aussi. De, il n'y a pas du tout d'inspiration.
C'est pas l'inspiration, moi, je pense que c'est d'un coup le désir d'écrire ou quelque chose à raconter ou justement comme tu dis aussi ce truc là d'écrire pour pas ressentir mais moi j'attends pas l'inspiration enfin l'inspiration pour moi ça veut rien
sinon
dire
sinon tu peux attendre longtemps effectivement mais surtout c'est vrai que ça veut
c'est pas les meilleurs écrits
je pense pas que ça veut peut-être pas totalement rien dire mais en tout cas je pense que c'est pas compliqué de créer c'est-à-dire que là on se pose on invente une histoire imagine je pense que ça va pas être très compliqué ça tout le monde
écoute,
le fait
s'il te plaît j'aimerais bien qu'on se pose non, et qu'on
ce qui va être
je
compliqué
sais pas faire ça,
ça va être le traitement ça va être le fait de ça va être la partie technique
C'est ça qui moi ce qui me fait peur la partie technique ne me fait pas peur de me mettre à écrire et d'aller chercher les bons mots et les
mais d'aller chercher les bons mots ça c'est de la technique
ça
oui,
j'adore
oui.
Mais qu'est-ce que je vais raconter c'est ça moi mon truc quand je dis l'inspiration c'est l'imagination en fait hein toi tu l'as
ouais c'est vrai je pense que c'est peut-être lié au fait que j'ai écrit toute ma vie donc enfant donc j'ai pas peut-être que ça a été comme un sport, enfin un truc que j'ai tout le temps entre...
Et tu as inventé des histoires.
Oui, voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre où je parle vraiment de moi. Oui, de manière détournée, je mets du moi, ok, d'accord, très bien. Mais j'écris pas de, jamais écrit d'autobiographie, jamais raconté ma vie dans un livre, j'invente des histoires. Donc moi, quand je me pose sur un livre, c'est qui je veux raconter, comment va être mon narrateur, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Donc oui, j'aime inventer. C'est vrai que c'est mon truc, mais je pense que c'est un truc... je fais tellement depuis que je suis gamin que j'ai pas eu peut-être parce que je vois les blocages souvent c'est des hontes c'est est-ce que mais qu'est-ce que je vais raconter moi j'ai pas eu ce problème là j'ai pas honte d'écrire d'être lu pour moi c'est un truc assez naturel quoi donc
t'étais le genre de gamin duquel on pouvait dire il a une imagination débordante par exemple voilà
mais bon, ça, je pense on, là, ça c'est tous les hein. Je pense que quand même tous les gamins peuvent avoir une imagination en tout
pas
cas
trop ça moi j'aimais me raconter quoi tout le temps et les peines et les doutes et les amours ouais j'ai jamais réussi à imaginer je me rappelle même quand j'ai eu un enfant je commençais à vouloir inventer des histoires alors je peux des chansons oui je peux faire des petites comptines et machin ça je peux faire mais ça reste quand même très personnalisé quoi
Alors moi, je vois un truc, c'est que, par exemple, j'avais un frangin, lui, qui est tout bib, et puis l'esprit très cartésien, très... et lui, il était dans les Pulse, quand il était gamin, dans les trucs comme ça, et lui, incapable de créer. Moi, je le voyais faire des Pulse, je construis un truc, je me suis dit, mais putain, mais ça a l'air relou, parce que toutes les règles sont définies,
elles
tu
sont
vois.
Elles sont déjà là.
Tiens, donc t'as juste... Et moi, mon truc, c'était, je prenais des jouets, et puis je racontais des histoires et tout.
En fait, toi, tu ne faisais pas les puzzles. Moi, je dis puzzle, pardon.
Ouais.
Tu les crées.
Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est
non,
exactement
il y a
ça.
Ceux qui font les puzzles. Moi, je connais, j'ai ma meilleure amie, ma manageuse, Audrey. Sa passion, c'est de faire, de reconstruire les pièces. Moi, ce que j'aime, c'est trouver les pièces, de les construire de toutes pièces, tu vois, de toutes pièces.
Et d'ailleurs, j'ai inventé des jeux de société. Quand j'étais gamin, je créais des jeux de société, des trucs. Ouais. Donc, effectivement, mais... j'allais pas jouer à mes jeux de société.
Ouais, c'est ça, tu les inventes, mais toi, t'inventes les règles.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et un jeu vidéo aussi. Il y avait un logiciel qui s'appelait Click and Play, où c'était un vieux logiciel pour fabriquer des jeux vidéo. Bon, c'était un peu à l'arrache à l'époque. Et mon frère était sur la partie technique. Donc, je lui disais, alors je veux ça, ça, ça. Et lui, il adorait mettre en application ce que je lui demandais. Et puis, moi, c'était vraiment de créer l'univers et tout. Donc, effectivement, on a peut-être des prédispositions sur.
Bon, joli après, binôme, n'empêche.
Ah bah, énorme binôme, mec.
Vous continuez pas à faire des choses
Non, mais on en a déjà parlé. Je pense qu'on pourrait, mais il est hyper occupé, moi aussi. Enfin, voilà.
J'aime bien ça, moi, le côté, justement, toi, tu dis, j'invente l'univers, donc ça, c'est toi. Et j'adore quand quelqu'un, et moi, je sais que je fais ça en musique avec des gens, parce que moi, je suis pas du tout geek ni technique, d'avoir quelqu'un qui est le prolongement de ta volonté.
Ouais, c'est exactement.
C'est trop bon.
Et d'ailleurs, mon frère, c'était lui qui a écrit mes premiers romans, mes premiers livres, qui faisait une page.
Je veux dire écrit tapé.
Qui l'écrivait, parce que moi, j'étais avec mes deux doigts. Et puis surtout, même, c'était trop. Ah non, la flemme de. Tu vois, déjà, tu
on
mets trois heures entre le moment où tu appuies sur une touche et où tu appuies sur l'autre. Et mon frère, il était déjà dans un truc où je racontais l'histoire, et puis il écrivait, après je l'imprimais, et puis je le faisais lire à d'autres. Donc j'avais aussi la volonté de faire lire ce que j'écrivais.
Plus grand ou plus petit ?
Plus grand.
Ah ouais.
Et du coup, ouais, effectivement, il y avait ce binôme. Non, mais je pense, ouais.
Est-ce qu'il y a un petit trouble de l'attention quand même
chez
toi
moi?
Ouais.
Ouais.
Un ennui entre les deux touches que tu cherches,
ah,
entre le A et le ZERTY.
Alors, moi, c'est vrai qu'il y a un truc avec la technique.
Ah, l'enfer. Un mode d'emploi, par exemple.
Ah, ouais, voilà, bah, là, on se comprend.
Même un truc Kinder.
On se comprend.
Ouais, c'est immédiatement, tu vas voir avec ta fille, il va y avoir des choses à monter, beaucoup de trucs à monter avec les gosses. Et moi, c'est devenu un enfer sur Terre, ça.
De
toute façon, même les recettes, t'es du genre à inventer des recettes.
Oui,
voilà.
Plus qu'à les appliquer,
bah
ça
oui.
C'est clair. Ouais.
Bah oui.
Non, mais moi, les notices, juste non.
En fait, le mode d'emploi est anxiogène.
Ouais, c'est
le mode d'emploi est anxiogène. Et maintenant. Donc, tu me dis que tu n'avais pas de rituel. Aujourd'hui, sans conso, genre, tu as un thé, tu fumes plus de club. Donc,
non,
c'est quoi ton truc ?
Club, les rituels. Je t'avouerai quand même que j'essaye de ne pas trop en avoir. Mmh. Parce que j'essaye de ne pas être trop dépendant des rituels quand même. Et j'essaye d'écrire quand même le plus possible sans me dire ah ouais mais là on est l'après-midi, j'ai un peu la flemme, parce que la flemme je le ressens, hein. Tu vois, le truc, j'ai pas tout le temps envie d'écrire, par contre j'écris quand même.
Waouh, c'est génial.
Mais alors
procrastination on connaît.
Ouais, c'est pas montré quand même sur l'écriture, je suis assez constant.
Sur le reste, t'es plus, tu procrastines sur d'autres
non,
choses.
Non, pas trop.
Même pas.
Non,
génial.
Moi je suis plus la team volonté déchaînée que moi là où
oui, il y a deux teams chez les dépendants, on connaît.
Ouais, moi, il faudrait plus que je me calme sur l'action, parce que je suis vraiment tout le temps en mouvement.
C'est important pour l'addict, est mieux en action, en volonté, il est mieux en action qu'en procrastination, l'addict.
Ouais, je pense.
Alors, comment est-ce qu'on commence à arrêter?
Alors, moi, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, le truc ne marche plus et parce que la souffrance devient plus importante que les bénéfices. Et encore, ça, il faut s'en apercevoir. Parce qu'on est tellement capable, et tu sais de quoi je parle, et les gens qui ont fait un peu un taf sur eux, ils le savent, c'est que le déni est tellement fort que tu peux avoir des gens qui se retrouvent à la rue, qui sont dans la misère complète, et quand même, non, mais le problème ne vient
c'est pas
de
ça.
Là, tu vois. Moi, je veux dire, le truc, enfin, un des trucs, mais je pense, c'est que j'ai commencé à entendre des voix, tu vois, être paranoïaque et tout, et donc j'ai vu que je vrillais vraiment dans un truc psy.
Attends, tu consommais très festivement, toi,
ah, non,
ou
très
seul?
Non, très seul. D'accord. À la fin, c'était vraiment très chez moi.
Au début,
je voyais
quand
plus...
même, fête.
Ouais, non, j'ai. Enfin, la fête, il y a eu, mais dès le début, c'était très. Même tout seul, je fumais beaucoup tout seul et tout. Et après, à la fin, c'était vraiment avec des cons autour de moi. Tu vois,
paranoïa.
Paranoïa. Et puis, moi, les 2 mois avant d'arrêter, j'étais vraiment seul. Je voulais plus voir personne. Et beaucoup, c'était presque cliché. Là, je vais te sortir un cliché, mais c'était quasiment dans le noir. Hein, volet fermé, tu vois. Et,
tu consommais quoi à la fin, justement?
Des trucs de synthèse ou des méthamphétamines, de la coke. Non, je dormais plus. Enfin, alcool, enfin tout. Enfin, franchement, à la fin, c'était le festival, quoi. Et je pense que c'est vraiment là le truc qui m'a alerté, c'est je me suis vu vraiment dans Requiem for a Dream, tu vois, le truc de putain, j'arrive plus du tout à suivre, tu vois. Et puis évidemment, t'as les problèmes de pognon, de lien, de santé, tu vois, j'étais tout le temps malade.
T'habitais seul?
Non, j'étais avec ma meuf et elle voyait pas du tout le truc, enfin tu vois, genre.
Comment?
Mais c'est pas ça, c'est que tu sais, vraiment, la consommation, c'est aussi l'art de manipuler, tu vois. Et enfin, dans mon cas,
tout le monde, ouais.
Et tu vois, tu peux, ouais, bien sûr, et tu peux vite te caché derrière je sais pas d'ailleurs, c'était comme ça.
Est-ce qu'il y avait une dépression quand même due à tout ça ou même pas? Tu sais plus.
Ce que je sais, c'est que quand j'ai eu, puisque tu citais le prix de Flore, et quand je l'ai eu, ma conso, elle a triplé. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un truc comme ça de lier un peu peut-être le
syndrome de l'imposteur.
Ouais, voilà, je pense à un truc comme ça où un peu la toute puissance à la fois la sous-estime poussée au max de tu vois, de je me comment dire, vraiment il y a un truc...
j'assume pas,
mais c'était aussi tu vois, ça installe mon nom, enfin il y a une reconnaissance d'un coup, je me retrouve, moi je te dis, tu vois, le cancre au bahut.
C'est
avec
ça.
Un truc où je me sens pas à ma place, tu vois. D'un coup, je me retrouve, un peu mis en avant. Et je pense qu'il y a quand même eu un lien. Alors, je pense, de toute façon, avec ou sans esprit, ça serait terminé comme ça, puisque vu qu'il y a un moment, tu as besoin de plus en plus te charger. Mais je pense que ça a accéléré quand même ce processus-là, quoi.
Ouais.
Et puis, surtout, socialement, tu vois, je suis obligé de... tu parlais de masques, de mettre 10 fois plus de masques, parce que, tu vois, toutes les fragilités des trucs comme ça, j'étais d'autant plus obligé de les... Enfin, je me sentais d'autant plus obligé de les cacher, quoi.
T'as écrit un livre qui s'appelle Kems.
Ouais.
Est-ce que c'est encore une histoire, c'est une histoire imaginaire, j'imagine?
Ouais, c'est quand même, bien sûr, évidemment, tiré un peu aussi quand même de mon expérience, de la réalité, mais ça reste quand même, encore une fois, ça reste du roman.
Mm-hmm.
Donc c'est quand même une histoire imaginée sur un truc que je connaissais bien, qui était le mélange du sexe et de la consommation, de consommations bien particulières qui sont faites pour amplifier le
plaisir,
le,
et la durée.
Le désir, non mais même pas ça, l'obsession, quoi. C'est-à-dire, mm-hmm, ça met vraiment dans un truc.
C'était quoi comme drogue? C'est la 3
3MMC, Crystal Meth, des trucs comme ça, quoi.
Parce qu'on a reçu quelqu'un, c'était le comment ça s'appelle, GBL?
Ouais, GBL, ouais, ce qui est beaucoup utilisé.
Drogue.
Qui est le GHB, en fait, le
oui,
GBL,
c'est ça.
Ouais. Et qui est aussi utilisé pour ça, ouais. Alors, moi,
on peut pas boire en même temps.
Non, on peut pas boire en même temps. Alors, moi, tu vois, je te disais, j'avais une drogue pour dormir, c'était le GBL. Moi, sur la fin, je me faisais des G-Hole, des comas pour dormir, tu vois. C'était pour te dire un peu la folie du truc, c'est-à-dire, je me mettais quelques millilitres dans un.
C'est pas loin de la mort, quand même.
Ah ouais, non, mais je me suis retrouvé à l'hôpital 2 fois en 2019 et tout. Et je pense la deuxième fois, parce que tu me disais la folie, je pense la deuxième fois. Les pompiers sont venus me chercher chez moi et je pense ça a
tu
été aussi.
Tu les as appelés?
Ouais, je les ai appelés parce que je chantais que j'étais en surdose et je pense voilà tout un tas de trucs qui ont fait que je me suis dit bon bah là en fait mais c'est marrant, je me suis dit c'est juste un truc de drogue et comme d'hab tu parlais de l'arbre qui cache la forêt, moi pour moi il y avait pas de forêt, j'avais oui. Juste un problème de drogue.
Et là qu'est-ce qui se passe là, c'est drôle parce qu'on a reçu quand même Julien Garnier.
Ouais.
Tu te rappelles de ce gars, ouais, que t'as croisé un jour
Alors parce que en fait c'est lui un peu qui m'a un peu sorti, enfin qui m'a parlé de groupe, de tu vois, de groupe d'entraide entre personnes dépendantes et je me suis retrouvé dans un dîner avec lui. Moi je consommais, lui non, et puis on parle et puis donc du coup il m'apprend qu'il est dans des groupes d'entraide. Et j'ai hyper sympathisé avec lui.
Il
est très sympa. Et puis j'ai trouvé super smart et tout. Et du coup, on est restés potes. Et puis au moment où vraiment, pour moi, ça part en sucette, je lui dis, ouais, enfin, je lui en parle. Il me dit, mais vas-y, mais viens dans les groupes. Viens voir. Enfin, d'ailleurs, très suggestif. Hein, tu vois, genre pas, tu vois, voilà, va voir si
pas
tu
prosélyte.
Veux. Pas prosélyte. Et effectivement, moi, j'ai accroché totalement avec l'entraide, avec ce qu'on appelle les modèles...
Minnesota,
quoi, tu vois, vraiment l'entraide. Et moi, j'ai fait le choix de l'abstinence totale de tout produit, quoi.
Sans cure?
sans cure. Moi, je suis pas passé par les
non, mais
par
comme quoi, c'est important que les gens sachent, parce que souvent, on m'écrit en me disant « Oui, je cherche une cure et tout. »
Il faut pourquoi savoir. Pas
oui,
je pense
pourquoi
que
pas.
Ça marche. Hein,
tu mais vois. Attention, quand on voit ce que tu consommais, donc on est quand même sur du lourd,
ouais.
Si toi, tu peux t'en sortir sans cure, c'est que c'est quand même aussi possible.
Ah ben non, mais c'est possible. Ouais. D'ailleurs, je suis pas du tout le seul à m'en être sorti sans cure.
Et
maintenant...
arrêter tout et sans du tout réduire doucement.
Ah non, non, moi
Christophe Tison, qui n'y croyait pas une seconde.
Christophe, c'est différent. Et puis, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes produits.
Enfin, il arrive en cure, on lui enlève tout. Le mec prenait une plaquette de Xanax juste pour
mais
pour,
c'est à ça
vivre,
que servent
hein.
Les cures. Hein. C'est ceux qui n'arrivent pas. Sur, par exemple, dans les groupes d'entraide, t'en as, ils viennent, ils testent, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et là, on leur dit en cure. Moi, je l'ai fait à l'ancienne. Ouais. J'ai serré les dents. Et puis, et
t'as
puis
serré
j'ai...
les dents. C'était dur.
Ah ouais, c'était chaud. Ouais.
Le début.
Ouais, c'était chaud.
Longtemps.
Alors, c'était, alors, c'est relatif. C'est-à-dire, à la fois, c'est dur parce que les symptômes physiques sont durs. Par exemple, moi, j'ai eu vraiment des cauchemars qui ont duré très longtemps, des insomnies qui ont duré très longtemps, et puis des obsessions. Mais sauf que je me suis tout de suite impliqué à fond dans les groupes, ce qui fait que c'était beaucoup moins dur qu'un mec qui fait ça tout seul. Et je crois que même tout seul, c'est quasiment impossible. Alors, tu vas trouver des exceptions de, du copain, de ton
oui,
pote.
Oui, il y a toujours, il faut arrêter de...
Mais disons que j'étais porté par ce truc de centaines de personnes qui sont passées par ce que j'ai vécu. Tu vois, je me suis senti vraiment... Je suis passé du mec qui se voyait comme un toxico à un mec qui se voyait comme un dépendant abstinent en rétablissement. Donc, si tu veux, il y a quand même un truc de, d'identité hein, quand même, derrière. Et donc... j'ai envie de te dire, oui, c'était dur et moins dur que ce que mon esprit peut s'imaginer. Tu vois, enfin, voilà.
Est-ce que ceux qui nous écoutent imaginent aussi ? Parce qu'on voit justement Requiem for a Dream, on voit tous ces trucs-là. Moi, j'ai vu des films toute ma vie en me disant, mais n'importe quelle drogue, et on va passer par des mois de sueur, de machin. De... Moi, Christiane F., là, le nombre de fois, t'as déjà touché à l'héroïne ?
Oui, mais pas en injection.
Ouais, parce que c'est un sevrage très difficile, l'héroïne. C'est impossible.
Tu sais, moi, comment dire, de ce que j'observe, avec, c'est que t'en as sur du crack ou sur de l'héro, ils vont moins galérer qu'un mec qui était sous cacheton ou sur bédo. Donc, ouais, tu vois,
les cachetons, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je veux dire, le Xanax, il paraît que le sevrage, il y a une série là, qui sort, pas une série, mais un docu, des gens qui j'avais jamais vu ça. Je sais pas si t'as vu.
Non.
C'est, ils font des pharmacies chez eux, donc ça s'appelle Xanax d'ailleurs, le docu.
Okay.
C'est aux États-Unis. Hein. Mmh. Donc il a une espèce de truc pharmaceutique chez lui. Il a des pipettes, des trucs. En fait, ils font des doses infinitésimales pour arriver au sevrage parce que c'est impossible de se sevrer du Xanax.
Ouais, tu sais, moi j'ai vu par exemple un mec qui était au crack. Et qui est terminé un grand producteur. Et inversement, j'ai vu des gens sur du bédo se transformer en légumes. Donc le truc de l'héro, le truc... Oui, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes physiques qui vont être assez différents. Par exemple, sur l'alcool ou l'héro, c'est quand même solide hein, tu vois, de décrocher de ça. Mais par contre, ça ne te dit pas... tu vois, il y en a, ils n'arrivent pas à s'en sortir sur des produits où tu te dis, tu appelles ça des drogues douces ou...
Mais même le tabac, tellement... c'est pas une drogue, je la considère pas comme une drogue comme
ah
toi.
Ah bah le tabac c'est super dur.
Mais c'est le pire,
Le tabac c'est super dur, alors là je l'ai expérimenté. Et le tabac c'est en même temps que je suis devenu...
Ah t'as tout arrêté en même temps, tu t'es dit ça y est.
Ouais, je me suis dit ça y est, mais moi alors j'avais un truc parce que une des raisons, alors je te parlais des symptômes, c'est que moi je sais pas, j'avais un truc, j'avais des bronchites tout le temps. Et ça m'a vraiment incité à arrêter parce que c'était très difficile, j'avais des bronchites avec de la fièvre, avec des trucs et ça m'arrivait quasiment tous les mois pendant une semaine, je pouvais pas et ça a été vraiment aussi un des trucs où je dis non mais je peux pas, je souffre trop, tu vois. Donc tu vois tout ce qui était là, clope, le truc, tu vois, je sais pas, je me suis demandé si j'étais pas allergique à un truc qui était dans le tabac ou tu vois, mais
la
donc
nicotine.
Oui, j'ai arrêté à la nicotine, je pense pas, parce que c'est ce qui crée de la dépendance, tu vois, mais
l'ammoniaque pour les bronchites, je crois que ça fait partie.
Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ceci dit, le tabac est une drogue, mais enfin, c'est pas la drogue, c'est pas le truc dans lequel. Et en même temps, tu vas mettre beaucoup de trucs dans une clope, tu le fais parce que t'es bien, parce que t'es pas bien, parce que tu te fais chier, t'es à la
radio. En fait, c'est pas le produit, je crois, hein, c'est ce qu'on y met dedans aussi. Hein.
Ouais. Parce que beaucoup d'émotions dans la clope.
Bah dans tout, la clope, ça fait partie. Et puis l'alcool aussi, le verre qui décontracte, ça me fait du bien. Moi, on est en plein. Là, on enregistre en novembre, on est en plein mois sans tabac. J'ai plein de gens autour de moi qui ont écouté les podcasts qu'on a fait pour ça et qui essayent, genre ma mère. Donc, elle fume pas énormément, mais depuis tout le temps, depuis qu'elle a 13 ans, tu vois. Et donc, elle fume 8 clopes. Impossible pour elle d'arrêter. Donc là, elle a écouté le podcast, elle arrête avec les patchs. Donc ça marche apparemment très bien parce que cette tabacologue Marine Soussin nous explique qu'on n'est pas obligé de souffrir pour arrêter de fumer. Donc il faut avoir sa dose de nicotine. Et elle y arrive, elle est contente. Elle me dit, mais on ne va pas se mentir, hein, ça enlève la joie de la vie. Et en fait, j'ai ma mère qui est hyper joyeuse en plus. Je lui dis, mais enfin, si toi, tu dis, tu remets toute la joie... dépendance, enfin si la joie est dépendante d'une cigarette, je dis imagine des toxicos quoi.
Oui, mais c'est pareil sur les toxicos en fait, c'est-à-dire que je pense que le propre aussi de l'addiction, c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire de te faire croire que tu peux pas vivre sans. Ouais. Donc tu vas mettre ça aussi sur effectivement sur le mais comment, moi je veux dire, j'étais terrorisé par mais comment je vais bosser, comment je vais m'amuser. Et tu me demandais si c'était dur, par exemple, moi j'ai eu énormément de mal à bosser pendant un an. Tu vois, mais vraiment parce que je croyais que j'y arrivais pas sans, enfin tu vois, parce que tu sais tous les doutes, les trucs, et j'ai écrit un bouquin naze pendant cette période parce que j'étais terrifié, tu vois, genre ma seule protection c'était de me dire alors pour que le bouquin marche, tu vois, il y avait plus de trucs, tu sais, c'était toutes les recettes pourries de chercher un bouquin qui marche plus que qu'est-ce que j'ai envie moi d'écrire. Et ça, il m'a fallu une rééducation pour m'amuser pareil. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans des soirées un peu justement avec des gens abstinents. Putain, mais c'était l'angoisse totale. Tu vois, genre, je peux pas me retrouver dans un endroit où ça danse, où ça truc, et moi pas consommer, quoi. Et ça, je l'ai totalement perdu aujourd'hui.
T'arrives aussi bien... vraiment à t'amuser ?
Ah, franchement, j'arrive à m'amuser.
Tu sors ?
Grave. Non, pas trop.
Voilà,
oui,
parce
mais
que
non,
moi, je trouve que je m'amuse
oui,
pas.
Oui, mais non,
sortant.
Mais c'est pas ça. C'est que le truc, c'est que moi, j'ai. Bon, ceci dit.
On change
c'est...
de mode de vie, quoi.
Ouais, et puis je pense qu'en fait, ça m'a toujours fait chier.
Oui,
et
c'est
que,
ça.
et que la conso, ça... tu sais, la conso, ça devient vite un prétexte.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire, il te faut ça, en fait, mais en fait, c'est un prétexte.
Mais
la
je te
soirée.
Rejoins tellement parce qu'on me dit, ouais, maintenant, tu t'emmerdes en soirée. J'ai dit, je crois que je me suis tout le temps emmerdée. Et donc, ouais. Je consommais pour pas m'emmerder, mais moi, les gens m'emmerdent très vite. Si t'es pas quelqu'un de brillant en face qui me fait vibrer, qui me raconte. J'ai besoin, en fait, d'intellect, j'ai besoin qu'il se passe des choses de ouf.
Bah ouais.
Et quand dans la soirée, le truc le plus ouf, c'est la conso, voilà, je suis désolée. Hein.
Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Est-ce que je m'amuse ? Non, franchement, je m'amuse. Je me marre, mais pas une soirée.
Mais pas avec pas. Les mêmes personnes, surtout.
En tout cas, le truc où il y a trop de monde, je me rends compte que ça me fait pas du bien. Tu vois, parce que moi, j'ai un peu ce truc de me mettre dans la tête de tout le monde. Enfin, quand il y a trop de monde, ça, c'est trop d'informations pour moi. Tu vois, ça, j'ai vraiment identifié un truc comme ça. Donc, non, pourquoi pas ? C'est pas que non, je peux refaire de la fête avec des consommateurs, enfin, pas la fête, mais des moments de convivialité, mais en petit comité et ça. Et ça, si, je peux vraiment m'amuser. Hein. Et je m'amuse vraiment, mais pas la fête comme on imagine la fête, quoi. Tu vois, genre le gros son avec je sais pas,
il y a 500... certains sons, tu vois, on va pas se mentir, il y a certains endroits, certains trucs, et ça va avec certaines drogues quand même.
Ouais,
je sais pas
ce qui
qui
paraît,
arrive à faire des raves parties.
Non, si, j'en connais. Moi, je connais des abstinents qui font beaucoup la teuf. Hein.
Ouais. Ah ouais.
Ouais.
Moi, ceux-là, je les connais aussi et je ne les comprends pas.
Ouais, ben moi non plus, mais en fait, je pense que c'est peut-être vraiment, ils kiffent.
Ouais,
ça existe quand même. Ouais.
Non, oui,
je connais
la
même
trans...
une DJ qui a un certain nom, et ça, elle qui consomme pas à peu près depuis 4 piges comme moi, et elle, c'est une DJ, quoi.
Tu me la présenteras pour contradiction.
Ouais. ouais.
Et donc, le boulot est revenu, l'écriture est revenue.
Ouais, mais il m'a fallu un petit peu de temps.
Est-ce que c'est mieux ou différent ?
Ah, c'est clairement mieux.
Je veux dire ce que tu produis ou la façon de le
faire. Non, mais même le plaisir, vraiment, c'est, je suis beaucoup plus concentré et beaucoup plus rigoureux. C'est-à-dire, je vais taffer. Moi, c'était vraiment, allez, vas-y, on avance, on écrit. Et je suis beaucoup plus dans la matrice de mon. Je suis beaucoup plus impliqué dans ce que je fais et beaucoup moins parasité par si ça va plaire, si tu vois.
Ah oui.
Ouais, et puis surtout, pour moi, le kiff, vraiment, c'est beaucoup plus concentré. Et ça change
c'est
tout.
C'est fou, ça.
Ouais. C'est-à-dire que je passe beaucoup plus... Avant, je faisais des pauses tout le temps. Tu sais, ça me demandait une énergie. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus naturel pour moi. Mais il m'a fallu un temps, quoi.
C'est bien que les gens sachent, et moi aussi, parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Et ça m'encourage à persévérer aussi, mais c'est vrai que finalement, je me rends compte que je n'ai pas écrit de chansons depuis que je suis clean, en vrai.
C'est vrai.
Maintenant, parce que j'ai écrit Kérosène, donc l'album en 2019, c'était au moment où j'arrêtais, donc j'étais portée par le high de la sobriété.
Ouais.
Oui, donc il y avait un peu de texte d'avant, un peu de trucs de pendant le clean, et c'était vraiment au moment où j'ai arrêté, où j'ai écrit ce livre et cet album. Mais après... Bah non, en fait, pour moi, c'est encore dur.
Ok, mais peut-être t'es en reconstruction, peut-être faut se reconstruire un peu aussi. Enfin,
peut-être j'ai pas assez de temps clean long, tu vois.
Après, peut-être, je sais pas, c'est un truc, à mon avis, déjà, c'est un individuel, ce truc-là. Moi, je préfère vraiment clean. Enfin, pour moi, ça demande beaucoup moins d'énergie. Moi, c'est sûr que je préfère. Mais voilà, il m'a vraiment fallu ce temps-là pour me remettre vraiment dans le bain. Et surtout, tu vois, parce que je te parlais des doutes. Alors, je vis avec beaucoup de doutes. Mais surtout, au début, c'était le doute qui me gouvernait. Donc là, aujourd'hui, je sais que je doute beaucoup de ce que j'écris de ça. Mais en fait, je crois que j'apprends à écrire malgré ça. C'est-à-dire à accepter ce truc-là. C'est-à-dire, des fois, je dis, putain, mais c'est de la merde ce que je fais. Ça m'arrive souvent.
Et tous les écrivains, surtout.
Ouais, exactement. C'est-à-dire, c'est un truc assez sain. Et je pense qu'il y a mon deuxième cerveau aujourd'hui qui me dit, ouais, mais en fait, c'est un peu normal que tu ressentes ça. C'est pas grave, tu vois. Genre, tous, comme tu dis, tous.
Et tu me disais ça tout à l'heure en off. Tu me disais aussi, il faut accepter un petit peu que la vie, des fois, ça soit nul, en fait, qu'il se passe rien, qu'on s'ennuie.
L'ennui, ouais.
Il y a plein de choses, en fait, qu'on n'acceptait pas avant et bien sûr. Finalement, on se dit, mais en fait, c'est normal, tout le monde vit ça.
Ouais, ça c'est le truc de la condition humaine.
C'est important, ouais. oui, de savoir que c'est normal que les choses soient des fois hyper chiantes ou banales ou ennuyeuses, qu'on s'ennuie dans le couple ou qu'on se dispute ou qu'on soit en colère.
Et tu vois, tu parlais de ta... Enfin, je rebondis sur ta première question, pourquoi on consomme et tout. Donc, il y a plein de trucs. Et moi, je pense qu'il y a un truc aussi de toute puissance, c'est-à-dire de ne pas vouloir ressentir des trucs qui appartiennent à la condition humaine.
Oui.
Tu vois, l'ennui, la peur de la mort, les angoisses, tu vois, l'isolement ontologique, c'est-à-dire le fait que je ne puisse pas fusionner avec d'autres. Tu vois, plein de toutes mes limites, je ne veux pas les ressentir, quoi.
C'est extrêmement puissant ce que tu viens de sortir.
Et ben, en tout cas, je pense que vraiment, c'est vraiment le... Comment dire, ouais, la toute puissance, vraiment ne c'est presque...
On ne veut pas appartenir à cette condition humaine.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais il faut dire qu'elle peut être angoissante.
Sénèque qui dit on oscille toute notre vie entre l'ennui et le manque. Et, ouais. Et en fait, le désir et le manque... Je ne sais même plus la phrase avec le noir. On l'a cherché avec Frédéric.
Alors, alors, ça doit être plutôt Schopenhauer. La vie qui est aussi de l'ennui à la souffrance à l'ennui.
La souffrance à l'ennui, ouais.
Alors, je pense qu'il y a quand même des trucs...
Puis, il y a ce truc-là aussi de manque de satiété. De manque de satiété. On ne fait que ça, quoi. On obsède, obsession, et on se remplit. Et c'est vrai que cette condition humaine, elle est normale. Non, je te disais, Sénèque, ce n'était pas ça. Et puis, il y avait toute cette histoire de tonneaux percés aussi.
Ah oui, bien sûr, ouais.
On est vraiment ce truc-là. On remplit, et puis ça ne reste pas.
C'est ça.
Et je crois qu'on a tous du mal à vivre avec ce truc-là et les addicts sont des êtres spirituels qui n'ont pas les bons outils. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, c'est vrai.
Ah, je crois que c'est vrai aussi.
On cherche.
Je crois qu'il y a vraiment un truc, tu vois, la toute puissante, c'est se prendre pour Dieu. C'est marrant parce que là, je suis en train de relire pas mal de mythologie ou l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus ancien mythe, qui est la plus vieille histoire, qui est un truc mésopotamien. Et vraiment, tu vois que la morale du truc, c'est le mec veut être immortel. Là, Gilgamesh, à la fin, il cherche la plante d'immortalité. Et tu vois que déjà ancien, quand tu lis les mythes, les vieux mythes, comme la philo et tout ça, c'est vraiment le truc. Mais on garde vraiment le pire truc, c'est de se prendre pour Dieu, quoi. C'est-à-dire et je pense que chez les addicts, il y a un truc comme ça de toute puissance, de volonté de toute puissance face à l'angoisse existentielle, quoi. Un truc vraiment de peur.
Et même de pouvoir se suffire, en fait, aussi. Parce que comme j'ai dit dans l'intro sur toi, il y a vraiment cette espèce d'autosuffisance, d'auto-édition.
Mais c'est de la toute puissance, bien sûr.
Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, c'est la maladie du lien. On se coupe de tout en faisant semblant qu'on n'a besoin de rien ni personne, alors qu'en fait, tout le travail, une fois qu'on devient sobre, c'est de recréer ses liens.
Ouais, bien sûr.
C'est ça, hein, avec nous-mêmes déjà.
Ouais, je pense effectivement c'est une maladie du lien, entre autres, et des émotions, et de plein de trucs comme ça, et qui peut se réparer que par le lien. C'est-à-dire c'est un dysfonctionnement dans le lien un peu aux autres, et puis qui peut se réparer, enfin, en tout cas, dans mon cas,
toi, oui.
Dans mon cas, qui se répare par le lien aux autres, quoi. Ça, c'est sûr que sans l'entraide et tâche, chez moi, je suis convaincu que mon rétablissement ne peut pas fonctionner de la même façon.
Terminé, qu'est-ce que c'est pour toi tes contradictions? Qu'est-ce qui te sauve tous les jours? Qu'est-ce qui t'a sauvé?
Moi, c'est vraiment, tu vois, genre les groupes, c'est-à-dire les groupes d'entraide entre personnes qui sont dépendantes. C'est ça qui marche pour moi. Et ça revient vraiment parce que tu te sens dans un groupe, tu te sens vraiment appartenir à l'humanité. Et tu vois, on parlait de conditions humaines et tu t'aperçois que... Parce que moi, si j'ai une angoisse, si, bah, mettons, le doute face à l'écriture, tu vois, pour moi, j'ai l'impression d'être tout seul là-dedans. Ouais, mais moi, je doute le truc. Et en fait, quand je me remets avec d'autres personnes et que je les écoute et tout, je vais m'apercevoir qu'ils sont tous dans la même galère que moi et ça me renvoie à mon humanité. Et à ce moment-là, je vais me dire... Bah, en fait, c'est assez normal. Donc, je ne vais pas lutter contre les doutes. J'ai juste, voilà,
ça
c'est comme ça.
C'est du bien hein, de se dire, en fait, c'est tout le monde pareil. Il y a des choses
comme
ça.
Comme l'ennui. Tu vois, je suis là, ouais, mais attends, mais moi, j'ai consommé parce que je m'ennuie. Ouais, bon, bah, comme tout le monde, en fait. Tout le monde s'ennuie, l'ennui. Tu vois,
non,
j'ai
mais
besoin
d'entendre. Les artistes, il y a ce truc-là de se dire, moi, je suis à la maison toute la journée, j'écris tout seul. Parce que les autres, ils ont des interactions sociales plus que nous.
Mais les artistes, ils ont beau se dire ça. Ils ne vivent pas différemment. Après, t'en as d'autres, ils vont se dire, oui, mais moi, alors je suis parti, mais je vois tellement de monde j'ai besoin. Tu vois, genre, en fait, tu vois, tu te donnes un prétexte
mon patron,
pour.
Il y a tout le temps. Ouais.
Tu peux toujours donner des prétextes pour ne pas ressentir que tu es humain. Quoi. Je pense que c'est un peu ça le truc.
Et à part les groupes d'entraide, parce que ça, vraiment, on est tous. En tout cas, j'en parle beaucoup et j'ai invité beaucoup de gens qui sont sortis comme ça. Et quand on me pose la question, en tout cas, je dis. En tout cas, commencer par ça, de rencontrer des gens dépendants et de s'aider mutuellement. Donc, il y a non seulement tu te fais aider, mais toi, tu aides. C'est ça, il y a le service.
Ouais, il y a l'entraide. Il y a l'entraide. C'est vrai que moi, je suis impliqué dans une association d'entraide entre personnes dépendantes. Et c'est vrai que je suis allé beaucoup dans les hôpitaux en parler. Je réponds beaucoup à la permanence téléphonique de l'association, des trucs comme ça.
C'est un altruisme égoïste. C'est-à-dire, ça fait tellement de bien aussi.
Ouais, exactement. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est un peu effectivement de l'altruisme égoïste. Oui, bien sûr, je me sens utile quand je fais des trucs comme ça, digne, tu vois. Et puis ça me remet dans avec les autres.
Et ça donne du sens.
Ça donne du sens. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça que je cherche en fait. C'est vraiment beaucoup de sens.
Le sens. Ouais.
Et c'est marrant parce qu'on a un peu parlé de philo là et ça. Il y a un truc qui me parle, c'est Pascal. Le philosophe Pascal, c'était le divertissement. C'est une moyen d'échapper à sa condition humaine. Qu'est-ce que le divertissement aujourd'hui, si c'est de la compulsion. Tu vois, c'est vraiment, et je crois vraiment à ce truc-là de
en fait,
la télé, le scroll, le truc.
Son sens premier, le divertissement, c'est faire diversion.
Ouais, c'est ça. Et je crois, moi, ça me maintient, parce que c'est vrai que je lis pas mal de philo et je trouve que c'est un truc qui me donne du sens, exactement, pour pas trop essayer de vriller, me prendre pour quelqu'un, pour autre chose que ce que je suis. Ça m'aide. Et du coup, le truc du divertissement, c'est-à-dire de tout ce qui est de la dépendance, pour moi le divertissement aujourd'hui au 21e siècle c'est les chaînes d'infos en continu, c'est les réseaux sociaux, c'est le scroll, c'est les téléphones. Je pense qu'effectivement il y a un truc comme ça qui est de je veux pas ressentir de l'ennui, je veux pas ressentir des trucs comme ça quoi. Donc ça m'aide, je trouve la philo c'est un truc, t'as les groupes. Effectivement, les groupes d'antenne et la philo, je la vois comme une spiritualité laïque. Tu es un peu vidé de sa substance religieuse, quoi. Tu vois. Et c'est un truc qui me donne du sens et qui me permet peut-être d'accepter un peu plus certains la mort, la solitude, tu vois, des choses comme ça, quoi.
Je viens de finir un livre dont tu m'as parlé. Enfin, au moment où tu m'en as parlé, j'étais en train de le lire. C'était Le problème Spinoza. Ouais. Enfin, alors, moi, on peut dire que je suis dans Spinoza depuis des années. Je lâche pas l'affaire. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien ce livre, Irvin Yalom.
Ouais.
Et en fait, à un moment donné, il explique Spinoza et il dit Spinoza m'a donné. Il arrive à rendre de la raison passionnante. Donc il y a quelque chose qui fait. Nous, on a besoin de vivre avec passion et de s'enflammer. Ben, c'est important. Mais comment? S'enflammer pour des choses qui vont nous faire du bien. Et la philosophie, elle a ce truc-là. Spinoza, il a ce truc-là. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a des choses qui me mettent dans des états de haï très puissants. Et c'est la raison, pourtant. C'est quelque chose qui me fait comprendre, qui me fait... en fait, ça apaise. Moi, je trouve que la philosophie de Spinoza apaise.
Ouais. Et
pas que de Spinoza.
Ouais, elle apaise. Alors, Spinoza,
ça, en fait, ça nous rend humains et nous dire c'est pas grave. Et en plus, surtout, pour lui, tout est nécessaire. Tout a une cause. Donc, de toute façon, tout ce qui est... Ça doit être. En plus, ce que j'aime, c'est que bon, moi, je suis de confession juive. Je crois que toi aussi, ton nom, il a aussi quelque chose comme ça. Mais je trouve que la religion, moi, m'a pesé toute ma vie. J'ai été élevée là-dedans et tout ça. Et Spinoza a libéré ce truc-là. Je disais, hé, les gars, arrêtez deux secondes. C'est impossible que Dieu il vous ait dicté ce truc-là. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien. En fait, ça m'apaise, moi.
Ouais, ça apaise. Bah oui, alors Spinoza, c'est assez particulier. J'aime bien, déjà, j'aime tous les philosophes parce que je découvre la philosophie, donc j'en suis pas encore à me positionner.
C'est pour ça, c'est génial.
Mais quand même, il y a un truc que j'aime, mais spontanément, je me sens peut-être un peu peu plus proche de Montaigne. C'est-à-dire, je crois pas tellement à la sagesse. C'est-à-dire vraiment à la libération, à ce que Spinoza appelle la béatitude. Ouais. Je suis encore un peu sceptique sur les sages.
C'est-à-dire, bouddhisme.
Philosophiquement, non, l'impermanence.
C'est très proche, le nirvana, la béatitude.
Ouais, et puis c'est proche des stoïciens aussi, le bouddhisme. Exactement. Non, mais il y a des choses.
Spinoza méditait, en fait, quand il s'occupait de ses vers. Enfin, il était, je sais pas comment on appelle ça,
polissait des vers
de lunettes. Ouais. Il disait que c'était une méditation. Enfin, il était plongé dans quelque chose, dans le flow, en fait.
Ouais.
Mais toi, tu médites ?
Ouais, je médite, ouais.
Beaucoup ?
Ouais, pas mal.
Ça, c'est important, il faut le dire.
Ouais, bah, je le dis, ouais.
Dis-le.
Ouais, bah, écoute, je le dis et je le fais pas qu'un peu, en plus.
Ouais.
Et ouais, bien sûr, mais je le fais de manière complètement laïque, ouais. C'est-à-dire vraiment vidé d'une substance religieuse. Enfin, je suis pas bouddhiste, je fais pas de la méditation. Enfin, c'est vraiment un truc pleine conscience. J'en fais pas mal et c'est évident que ça m'aide.
Tous les jours ?
Tous les jours.
Et très longtemps ?
Tous les jours, une heure. Tous les matins, une heure, et puis un peu 20 minutes le soir. Et peut-être c'est lié à ça aussi, le fait que... Parce que moi, j'écrivais beaucoup sous amphétamine, et en fait, je trouve la méditation beaucoup plus efficace. Alors, ça met du temps, hein, parce que je suis à peu près sur ce rythme-là depuis 3 ans, un peu plus. Mais je trouve ça beaucoup plus efficace que n'importe quel coke ou amphétamine, pratiquer la pleine conscience en termes de concentration. Je trouve ça monstrueux, quoi.
C'est incroyable. Mmh. Incroyable, mais c'est-à-dire que tu dis 3 ans, ça veut dire que très vite, pendant ton rétablissement, tu as commencé à méditer.
Un peu avant le confinement, et le confinement, il n'y avait plus grand-chose à foutre, donc tu vois, je suis passé en mode... tu vois, quand même, et puis au début, j'ai trouvé ça difficile. Aujourd'hui, je ne trouve pas ça difficile. C'est plutôt difficile de ne pas en faire. Enfin, j'aime pas tu vois, être un peu précipité le matin. J'évite. Ouais, bien sûr.
Après, c'est tu dis que tu n'aimes pas ritualiser, mais je veux dire, moi, quand je...
Ah non, je parle du taf. Ah non, voilà. Mes journées sont super ritualisées.
D'accord. Ah voilà, on veut savoir.
Alors, mes journées sont ritualisées comme il faut, mais j'essaye de pas trop ritualiser le taf pour pas me dire il me faut ça, oui, ça d'accord. Et ça, il me faut une petite chandelle, un petit truc pour écrire. Non, je parle vraiment du taf. Et encore, si je fouille, sans doute que je dois avoir des rituels un peu cachés. Mais mes journées, si, je suis hyper ritualisé.
Tu te lèves très tôt ?
Je me lève super tôt. Je me dis, je fais du sport, je taffe, je fais quasiment tous les jours, je suis dans les groupes d'entraide.
Qu'on est d'accord que le rétablissement et sortir de la conso, c'est pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien ?
Ouais, en tout cas, je suis vraiment guidé par gagner de plus en plus de liberté, de sens, de trucs comme ça, quoi. Et c'est sûr que c'est un taf et que c'est pas
si
facile.
Si t'arrêtes tout ça, si t'arrêtes les groupes, t'arrêtes de méditer, t'arrêtes le sport, t'es perdu.
Ah bah,
ça tombe pas du ciel.
C'est un phare.
Voilà.
Okay. Non, c'est un phare. Et puis, et puis il n'est pas question. Et puis, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux que de me reconstruire, en fait. Donc après, je peux aller fuir où je veux à me raconter. Mais je ne vois pas trop, effectivement, je ne vois pas trop quel sens je peux donner de mieux à ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai un problème avec ça. Comment je vais gagner en liberté ? Comment j'essaie d'accepter ça ? Comment, tu vois, je ne vois pas trop ce qu'il y a de plus, digne ou noble ou je sais pas dans une vie quoi. Et puis en l'occurrence j'ai conscience tout le temps de ma mortalité, donc un peu du temps qui passe, et en même temps c'est angoissant, mais en même temps ça me permet de mettre du sens un peu, enfin d'aller vraiment de me rétablir quoi. C'est ma priorité aujourd'hui, enfin depuis 4 ans c'est vraiment ma priorité, c'est ça tu vois.
Ouais, c'était passionnant, j'ai adoré cet
merci.
Épisode, j'ai adoré parler avec toi.
Merci beaucoup, moi aussi.
Ça me touche beaucoup, c'est très proche de ce dont j'ai besoin en fait, j'avais besoin d'entendre tout ça.
Merci pour l'invitation.
Merci Johan.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.